Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. Ce soir, c'est Sarah qui s'est entretenue avec Anne-Claire Joubard, cofondatrice de la compagnie du Poulpe qui revient cet été avec la deuxième édition du festival Le Sous-Marin. Vous pourrez entendre ça dans quelques instants et en fin d'émission, c'est Léo qui sera en studio pour sa chronique internationale. Il revient ce soir sur les enjeux liés au pôle arctique. Très bonne émission à toutes et à tous.
Si vous entendez cela, c'est que vous écoutez la Covidienne, notre quasi-quotidienne d'actualité format crise sanitaire. Et oui, cela fait un moment que l'émission originale, Le Sous-Marin, n'a pas repris du service. Heureusement, ce soir, nous vous proposons d'embarquer à bord d'un nouveau sous-marin, celui de la compagnie du Poulpe. À défaut de se passer dans l'océan, il se posera cet été à Brissac, Loire-Aubance et Loire-Antion. Anne-Claire Joubard est avec nous. Bonjour Anne-Claire.
Bonjour.
La compagnie du Poulpe est une compagnie de théâtre à la Croisée des Arts qui a créé un festival, Le Sous-Marin, dont la première édition s'est déroulée l'été dernier. Toi, tu as créé cette compagnie en 2019 après avoir été au conservatoire à rayonnement régional d'Angers en art dramatique. Comment ça se passe à la fin de tes études? Tu crées directement la compagnie avec qui?
À la fin de mes études, j'ai créé une première compagnie avec un collègue que j'avais rencontré au conservatoire. Et puis ensuite, j'ai fait évoluer cette compagnie en compagnie du Poulpe. Et j'ai créé la compagnie avec Quentin, donc, qui était aussi au conservatoire. Donc c'est une rencontre artistique et ça a donné la compagnie du Poulpe.
On va attaquer fort parce que sur votre site, on peut lire « Questionnement métaphysique sur l'idée de fragmentation et d'unification ». Ça, c'est votre ligne artistique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Oui, avec Quentin, on fait beaucoup de recherches spirituelles, théologiques et aussi sociales et écologiques, environnementales. On s'intéresse vraiment à tous les sujets qui font la société avec un grand S. Et en fait, on part de l'idée de qu'en fait, on est dans une grande période de fragmentation. On est tous divisés, on est tous chacun dans nos bulles. Et c'est très difficile d'essayer d'aller vers l'unité, ce qu'on appelle nous l'unité, la lumière, l'amour avec un grand A. Et en fait, toutes nos créations sont traversées de comment on peut rassembler les gens autour d'un spectacle, autour d'un univers, autour d'une ambiance. Et donc, on essaye avec des connaissances scientifiques, théoriques, spirituelles, de rechercher voilà les chemins qui font que à l'intérieur de nous comment ça peut s'unifier à l'intérieur mais aussi à l'extérieur tous ensemble. Donc c'est nos recherches.
Vous travaillez donc sur le rôle social de l'artiste. Quel est-il ce rôle social de l'artiste en grande ligne?
Bah nous on pense que il est complètement dans la cité qui fait le lien entre les habitants en fait par exemple d'un village, d'une ville et ce que l'artiste peut produire en termes de création, de réflexion. Et donc on le voit comme un porteur de parole au sein d'une cité, mais c'est aussi celui qui, en tout cas actuellement, qui peut récolter toutes ces paroles et les offrir au public. C'est vraiment un lien entre les habitants et l'art. Et on pense que c'est aussi par l'art qu'on peut tous se rassembler. On le voit bien quand il y a par exemple des options artistiques qui sont proposées dans les collèges, quand même ça permet de favoriser le développement de l'élève, de la personne. Et d'où on pense que ce rôle social de l'artiste, il est vraiment là pour lier les gens, même autour d'un, même pas un propos politique, c'est juste un propos sensitif et artistique.
Justement, quand on voit le rôle de l'artiste dans ce qui est lien entre les gens, rencontres, questionnements, comment ça s'est passé pour vous cette dernière année un peu particulière?
Nous, ça s'est passé plutôt bien, parce qu'on habite dans un petit hameau, et donc on n'a jamais perdu le lien avec les habitants, en leur parlant aussi de ce que nous, on faisait et ce que eux ils faisaient. Donc ça nous a aussi inspiré pour la prochaine édition du Sous-Marin. Et après, on a essayé de toujours trouver des liens, mais des vrais liens avec le Poulpe. On n'a pas voulu aller sur les plateformes, faire du streaming pour nos pièces ou voilà, se lancer sur les plateformes, on n'a pas voulu. Et donc, nous, on a continué à se balader dans les villages aux alentours et de prendre la température, en fait, tout simplement en dialoguant avec les gens autour de nous.
Avec la compagnie du poulpe, vous souhaitez vous implanter localement. Vous réfléchissez aussi à la place de l'artiste dans le système en général, donc que ce soit politique, sociétal, artistique. Et en plus de ça, à côté, vous privilégiez une économie courte et alternative. Enfin, vous avez un vrai axe de fonctionnement. Comment tous ces idéaux, qu'on peut appeler des idéaux politiques, je pense, se retrouvent dans votre travail, que ce soit sur scène ou en coulisses, dans la préparation et la réflexion?
Je pense que ça vient petit à petit. C'est vraiment, par exemple, on a commencé avec Quentin à s'intéresser à l'alimentation. Ça nous a amené sur consommer local, solidaire dans une économie courte. C'est quoi après les impacts sur les producteurs, c'est quoi les impacts sur un territoire, et ensuite c'est quoi un territoire, c'est quoi une mairie par rapport au système de décentralisation de la culture. Et après on a basculé sur des questions en fait politiques, mais en fait c'est quoi la démocratie, c'est quoi la démocratie locale, est-ce qu'on est en démocratie. Et en fait, on élargit, on part vraiment de ce qui est proche de nous, et on essaie de l'élargir à des questions plus politiques, sociétales, métaphysiques. Et c'est comme ça qu'on part. On se pose des questions, nous, dans notre vie, et puis on essaye de faire des recherches et de l'élargir. Après, dans nos créations, ça consiste à avoir... il y a des bénévoles au sein du Poulpe, il y a un bureau. Donc c'est avec ces gens-là aussi qu'on compose, qui sont pas forcément du métier et qui ont quand même un regard artistique important pour nous. C'est de quel sujet leur parle à eux et comment nous on peut s'inspirer. C'est aussi de vouloir jouer dans des endroits qui sont pas forcément dans les théâtres, mais d'aller dans les jardins, dans des lieux de patrimoine, dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux, pour essayer de nous aussi de nous inspirer et de créer tout simplement avec eux. Mais pour le circuit court, c'est aussi se dire où est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on a envie de jouer à 200 km de chez nous? Est-ce qu'on a envie d'avoir 200 dates par an pour juste faire? On est en questionnement tous les jours, tout le temps. Mais ça nous traverse de prendre le temps, tout simplement, et puis de faire avec ce qu'on a autour de nous.
Et en parlant de jouer localement, l'été dernier, donc en 2020, c'était la première édition du festival Le Sous-Marin, tous les jeudis de juillet et août, et cet été 2021, ça recommence. Déjà, pour la première édition, quelle était votre envie de départ? Comment vous est venue l'idée de créer un festival?
Alors, l'idée de départ, c'était la question... En fait, on avait fait un festival qui s'appelait Sans Transition à Saint-Lézin, où il y avait une grande question qui traversait le festival, c'était... que devient la place de l'artiste si la société s'effondre? Un effondrement économique, sociétal, politique, etc., environnemental. Et nous, on est parti de ces questions-là qui a beaucoup résonné. Si ça s'effondre, s'il y a quelque chose qui s'effondre, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on a eu envie de créer ce festival parce qu'on s'est dit, en zone rurale, loin des lieux institutionnels et de la culture institutionnelle qu'on connaît, petite jauge pour faire un lien entre les artistes et le public et que la conversation soit possible, lier déjà quelques producteurs locaux pour la restauration et puis proposer des événements qui passent pas forcément dans des grandes salles et puis proposer une pluridisciplinarité dans les représentations, dans les spectacles qu'on propose, puisque c'est aussi la ligne du Poulpe. Et donc on a eu des concerts, on a eu de la marionnette, on a eu du clown et du théâtre, et puis voilà, c'était l'idée de créer ce festival proche, encore une fois, proche des gens, proche de nous, en zone rurale.
Et pour cette deuxième édition qui se déroulera 7 jeudis des mois de juillet et août 2021 à Brissac, Loire-Auban, c'est Loire-Antion comme on vient de le dire, est-ce qu'il y a des choses qui vont radicalement changer par rapport à l'année dernière?
Oui, complètement. On a décidé de pousser encore le curseur et de revenir à qu'est-ce que c'était le théâtre avant, et on essaye de développer l'itinérance du festival. Donc on va se déplacer en fait de lieu en lieu, contrairement à l'année dernière où c'était tout dans un jardin. Cette année, on va aller dans 7 lieux du patrimoine de Brissac, Loire-Auban et Loire-Authion. On va vraiment allier beaucoup plus de producteurs. Il y aura un marché gourmand dès 18h sur chaque lieu du festival, chaque jeudi, et puis il y aura une première partie musicale et un spectacle à 20h. Donc on a tout poussé les curseurs, on va dire, pour essayer d'être encore plus complet dans nos réflexions. Et puis, avec l'itinérance du festival, on veut vraiment pousser l'idée que on n'est pas obligé d'aller bien loin pour redécouvrir là où on habite. On veut vraiment faire comprendre aussi qu'on peut changer de lunettes et puis se dire « Ah, mais en fait, ce lieu, je passe tout le temps devant, mais là, il prend une autre envergure, il prend une autre ampleur, c'est beau, avec ses spectacles, ce marché. » Donc, c'est l'idée qu'on a voulu développer avec les 7 lieux du patrimoine différents.
Comment vous avez choisi ces 7 lieux du patrimoine et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ou alors c'est secret ?
Non, c'est pas secret. On les a choisis avec la mairie de Loire-Authion et de Brissac-Loire-Aubin. On a vraiment travaillé avec eux. Nous, on leur parlait de l'ambiance qu'on voulait et puis ils nous ont proposé des lieux. On est allé les voir pour choisir. Et puis aussi, c'est nous qui avons décidé de certains lieux. Par exemple, pour le manoir, il y a le 1er juillet, c'est l'ouverture du festival, c'est au manoir de la Groix, à Saint-Saturnin-sur-Loire. C'est un lieu privé, mais c'est un monument historique qui fait chambre d'hôte. Et on passait tout le temps devant avec Quentin, et on se disait, mais il y a quoi à l'intérieur? On a frappé juste par curiosité, et en fait, on est tombé sur un manoir magnifique avec des jardins où les propriétaires font la visite des jardins et expliquent aussi l'origine du lieu. Par exemple, ça, on a vraiment un coup de cœur pour ce lieu. Donc ça, c'est nous qui l'avons choisi, par exemple. Mais la mairie nous a proposé, sur Loire-Authion, une façade d'école à la Boal. Donc toujours des lieux en extérieur avec un cachet patrimonial, je dirais.
Tu as évoqué le marché gourmand. Ce sera un marché gourmand éphémère et on trouve d'ailleurs sur le site un appel à candidature pour les artisans et producteurs qui souhaitent y participer. Quelle forme va prendre ce marché et est-ce qu'on sait déjà un petit peu ce qu'on va y retrouver ou ça va dépendre des personnes qui souhaitent y venir?
Alors en fait, tous les jeudis, il y aura un vigneron local qui fera une dégustation de son vin. Il y aura aussi toujours, par exemple, volaille, fruits, fromage. Donc ça sera des constantes dans le sous-marin. Mais par exemple, il y a un soir où on a un producteur de crêpes et galettes. Donc ça, il n'y a qu'un soir où il y aura ça. Il y aura un producteur de volaille étonnante avec volaille citron, volaille gingembre, volaille curry. Donc il y a des petites touches d'originalité, il y a des producteurs surprises chaque jeudi soir, mais la constante, ça sera quand même vin, il y aura du sans alcool aussi bien sûr, mais fromage et charcuterie. Voilà, on fait appel aux producteurs s'ils veulent venir sur le marché, proposer leurs produits, expliquer leur philosophie de leur agriculture. On est encore en recherche et aussi on fait appel aux artisans, aux artistes. Par exemple, aux peintres, aux photographes, aux graveurs, qui veulent aussi venir présenter leur production. Donc, c'est un marché un peu hybride encore entre production, producteur et artistes, artisans.
Le festival, c'est aussi une économie solidaire. Toutes les recettes, il me semble, toutes les recettes liées au marché restent directement dans les mains des artisans et producteurs qui auront vendu leurs produits.
Oui, complètement. Ça, c'est directement, ça nous a pas traversé l'esprit de faire autrement. C'était le producteur qui vend tel produit, eh bien, sa recette, ça sera pour lui. Les artistes, on partage les recettes entre chaque artiste. On tient vraiment à ce qu'il y ait l'économie porte bien son nom, hein, solidaire et sociale. On est vraiment là-dedans avec le sous-marin, ouais.
Et il y a aussi un appel à bénévoles. Comment ça se passe si on veut être bénévole et quelles seraient les missions?
Donc, pour l'appel à bénévoles, il y a sur le site de la compagnie, donc c'est compagniedupoulpe.net, il y a un formulaire à remplir. Et en fait, il y a plein de postes différents où on peut s'inscrire par date. Par exemple, il y a tenir la billetterie ou plus pour le placement, l'accueil des festivaliers, ou il y a aussi pour le parking, le bar. Donc il y a vraiment plein de pôles différents et on fait toujours des équipes de 2 ou 3 pour que ce soit plus marrant à plusieurs. Et voilà, l'inscription est rapide sur Internet et puis après on se rencontre et puis on parle du sous-marin tous ensemble.
Et là c'est vraiment un festival à dimension humaine, c'est important pour vous que les habitants et habitantes puissent participer activement au festival ?
Bah oui, on fait ça pour nous, pour eux, pour tout le monde. Pour les locaux, l'année dernière, on était contents. Après, c'est pas qu'on n'aime pas les Angevins, mais on a eu que 2 Angevins sur les 7 dates l'année dernière. Et on se dit, mais en fait, c'est bien, c'est vraiment les locaux qui sont venus et ça nous fait plaisir parce que il y a des spectateurs qui sont pas forcément habitués à aller au théâtre, qui connaissent pas c'est quoi le clown, c'est quoi la marionnette et juste on est content de leur faire découvrir un aspect de cet art-là. On n'a aucune prétention à faire découvrir le théâtre, la culture, mais ouais, c'est important et aussi que le territoire il change avec les habitants, que voilà, qu'ils se souviennent que bah ouais, en fait c'est moi qui ai changé parce qu'à un moment on joue dans un square à Brissac-Loire-Aubance, bah ouais, ce square il a été modifié, on a fait une belle déco et le village a bougé ce soir-là et j'y étais, donc c'est fédérateur.
On rentre dans le vif du sujet, quels artistes pourra-t-on retrouver cet été? Et en plus, la compagnie du Poulpe, donc la vôtre, fera aussi partie de la programmation.
Oui, alors le 1er juillet, c'est l'ouverture du festival, donc on ouvre avec une première partie musicale qui s'appelle Sweet Dean, c'est du jazz New Orleans, en déambulation dans les jardins. Au manoir de la Groix. Et après, il y aura un concert lecture, donc ça, c'est du Poulpe, donc c'est la métamorphose de Kafka. C'est deux musiciens et une lectrice au plateau. Ensuite, le 8 juillet, c'est au Square Hélène de Surgères à Brissac-Loire-Aubance. Et à 18h, c'est un duo de harpe celtique qui ouvrira le festival avec le marché. Et ensuite, c'est un spectacle familial, ça s'appelle Le Royaume de Mirepoux. C'est de la compagnie Aïe du Dos, une compagnie locale aussi. Donc ça, c'est à partir de 6-8 ans, dès 20h. Ensuite, le 15 juillet, l'ouverture du marché se fait avec Rémi. C'est de la chanson française, avec l'accordéon. Et ça sera sur Loire-Authion, au Théâtre de Verdure de Handard. Et ensuite, il y a une conférence à 20h du collectif L'Ardeur. C'est une conférence gesticulée sur l'éducation nationale et le titre c'est « Mais madame, vous n'êtes pas payée pour nous rendre heureux et pourtant ». Donc c'est une forte critique de l'éducation nationale, mais c'est aussi ouvert au débat. Donc on attend tous les profs et les instituts de la région pour débattre avec nous. Ensuite, le 22 juillet, c'est la chapelle de la Salette à la Boale. Donc l'ouverture se fait avec un duo de musiciens qui s'appelle Pli et c'est de la musique très ambiante, très planante. Et ensuite à 20h, le 22 juillet, c'est Saint-Irrévérence, c'est un spectacle de marionnettes pour adultes, mais les enfants aussi, mais bon, c'est peut-être un peu plus pour adultes. Le 29 juillet, c'est à l'étang de Chemelier, donc à Brissac-Loire-Aubance. Et là, on ouvre avec un duo festif qui s'appelle Pompassé Solo. Et le principe, c'est que le public demande une chanson à ce duo. Et le duo est censé tout connaître. On a tout testé. Ils ont un répertoire très varié. Et ensuite, à 20h, c'est Les Évadés. C'est un groupe musical et théâtral qui sortent leur deuxième album. Donc, c'est un groupe insolent et jovial, politiquement incorrect. Le 5 août, c'est à l'école privée de Notre-Dame, de la Boale. Et à 18h, c'est l'ouverture du marché avec un groupe qui s'appelle Bourville et compagnie. Et à 20h, c'est une lecture spectacle de la compagnie Il est doux de faire les fous sur une autrice du classique, donc 17e siècle. Et ensuite, la soirée de clôture, c'est le 12 août, au Domaine Escogriffe, à Couture, sur un vignoble. Et donc, l'ouverture du marché... La première partie, c'est une surprise. Et à 20h, c'est Wild One West. C'est une farce œnoludique. Donc en fait, c'est du théâtre et avec où il y a deux clowns qui font déguster du vin et c'est aussi politiquement incorrect.
Si on rentre un petit peu en immersion, comment va se dérouler une soirée type d'un jeudi avec vous cet été?
Alors, le festival ouvre à 18h. Avec le marché gourmand, où il y aura une planche dégustation possible à prendre, avec tous les producteurs locaux qui vendront et parleront de leur métier. Et dès 18h, il y a une première partie musicale. Donc on déambule dans le marché en écoutant la musique, on peut se poser devant la scène musicale. Et ça va durer une heure et demie. Et dès 20h, il y a un spectacle assis. Donc, ce que je disais, de la marionnette, du théâtre ou un concert. Et ensuite, après le spectacle de 20h, il y a une soupe à partager entre les festivaliers et les artistes. Et donc, on se dit que l'extinction des feux, ça sera environ vers 23h. Donc, il faut penser à amener sa chaise, son gobelet, parce qu'avec le Covid, c'est quand même toujours un peu compliqué. Donc, on propose aux festivaliers d'amener son assise et son verre et puis de profiter du festival dès 18h et de profiter et d'échanger.
Au niveau du tarif de l'accès au festival, ça se passe comment?
Alors, l'accès au festival, le jeudi soir, c'est c'est 5 euros l'entrée. Ça permet d'accéder au marché et au spectacle de 20 heures. Et c'est 8 euros avec la planche dégustation. Donc voilà, 8 euros, ça permet aussi d'un jeudi soir de venir. Et puis, on propose une planche dégustation surprise avec des mets et des vins du marché. Mais bon, c'est une planche dégustation toute simple, en fait.
Vous mettez aussi en place une cagnotte. Où est-ce qu'on peut la trouver et à quoi est-ce qu'elle va servir exactement?
Oui, alors la cagnotte, c'est un lien... qui est disponible sur le site web de la compagnie ou sur Facebook de la compagnie. Et en fait, c'est une cagnotte qui permettra de rémunérer les artistes parce que on se dit que si on a assez d'argent, on pourra faire un cachet à tous les artistes. Donc ça c'est quand même la base du métier. Nous, ça nous tient vraiment à cœur. On espère que cette cagnotte va atteindre son but. Sinon, bien sûr, on partagera les recettes en économie sociale et solidaire. Mais cette cagnotte, ça a vraiment pour but de rémunérer les artistes et rémunérer aussi la graphiste qui a fait tous les visuels, l'affiche. Donc c'est tout simplement pour payer les gens. Et on espère vraiment que cette cagnotte va bien marcher.
Où est-ce qu'on peut suivre tout ça, qu'on peut postuler en tant que producteur, artisan ou bénévole et tout simplement suivre les informations? Est-ce que c'est sur votre site ou sur une page Facebook?
Toutes les informations, bénévole, producteur, et puis même le lien de financement, c'est sur le site web de la compagnie, donc c'est compagniedupoulpe.net, ou sur le Facebook, il suffit de marquer Compagnie du Poulpe, et il y a vraiment toutes les informations, il y a une page sous-marin, il y a tous les événements, toute la programmation détaillée. Donc, et même, on est aussi sur Instagram, mais on n'est pas trop, trop actif encore.
Merci beaucoup, Anne-Claire. On va suivre tout ça de près. Et puis, d'ici là, bonne préparation.
Merci beaucoup.
They want me thick, want me thin, want me showing all this skin. Baby, sit, baby, grin, baby, where do I begin? Stop, listen to all of the haters and all of the venom they spreading in. System might be rearranged, but then reality is that we safe to them. Riding around in the pink sedan, damn, my hands look at my mama's hand. Nails not gonna fit you with, don't you worry about us, baby, I'm with. You do you, I do me, I don't worry about sounds like me. Gonna flip my swag from your head to your back to the teeth. You ain't got no rhymes like me, girl, 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 girl. Pretty. Baby, won't you go take a stroll in the bidden hall? Ain't killing all you know. Glimpse of future that's mine for sure. Hey, hey, future that's mine for sure. Looking at a future that's mine for sure. Wanna keep pulling me back like I'm chingy. Wanna be out and about like we Gucci. But the same ones that trying to read me. Get you a library card and a CD. I'm no Geneva, no, I'm not a treaty. Ever that means in this world kinda beats me. They be as real as the lips on Kylie. Damn, melanin. Wishing you had in the wishy den. Damn, how so easy, convenient. If it were that simple as a mini man. From the contraptions of pigs and them. Give him a life that can live again. Find us some peace in the present tense. Find us some peace in the present tense. Pretty baby, won't you go? Take a stroll in the bidden hall. Ain't killing all you know. No, glimpse of future that's mine for sure. Pretty baby, won't you go? Take a stroll in the bidden hall. Ain't here living for you, no. Glimpse of future that's mine for sure. Yeah.
De retour dans la Covidienne, toujours sur Radio Campus Angers. À l'instant, c'était Mindful, Daori et Twani. Et l'on accueille tout de suite Léo pour le retour de sa chronique internationale. Salut Léo.
Salut Thibaut, bonsoir à toutes et tous. Et ce soir, je vous parle de l'Arctique. Pas des ours polaires, des phoques ou des derniers clichés envoyés par Thomas Pesquet, mais de fonte de glace et de géopolitique. Vous allez le comprendre, les deux sont liés. Le Conseil de l'Arctique s'est réuni mercredi dernier à Reykjavik, la capitale de l'Islande. Il s'agit d'une organisation internationale fondée en 1996, assez classique. Elle rassemble 8 États, les États-Unis, la Russie, la Norvège, le Danemark, l'Islande, le Canada et la Finlande, les peuples autochtones et quelques membres observateurs dont la France ou la Chine. Sa fonction est également classique, renforcer la coopération pacifique et promouvoir les aspects environnementaux, économiques et sociaux du développement durable dans la région. Le tout pour le plus grand bonheur des 4 millions d'habitants de cette région si particulière. Elle a été l'occasion d'un passage entre la présidence islandaise et russe, une présidence qui tombe à pic pour la Russie, qui met de plus en plus les deux pieds dans la banquise.
Mais alors pourquoi est-ce que les États membres de ce conseil et les observateurs surveillent autant cette région ?
La banquise atteint sa taille minimale au mois de septembre et sa taille maximale au mois de mars. Ces 6 mois de fonte offrent un grand nombre de possibilités économiques, d'autant que le changement climatique permet de les étendre dans le temps. Gisement d'hydrocarbures, on estime que 10% des réserves mondiales de pétrole et 30% des réserves de gaz sont exploitables dans la région. Présence de minerais et de métaux rares, or, diamant, plomb, zinc, nickel ou encore uranium. Possibilité d'ouvrir une zone maritime, une route maritime pour relier l'Europe et l'Asie pour devenir une artère commerciale le long de la Russie. Et forcément, tout ce potentiel a attiré les requins des grandes compagnies minières. Il y a quelques semaines, le Groenland s'était d'ailleurs opposé à un projet de mine d'uranium sur son territoire. J'avais pas mal ri quand l'ancien président américain Donald Trump avait sorti dans le plus grand des calmes « Et si j'achetais le Groenland ?» Jamais le dernier, quand il s'agissait de parler affaires, Trump avait d'ailleurs ouvert des concessions pétrogazières en Alaska, fermées depuis par Biden. Mais derrière la blague, Trump avait sans doute une idée en tête bien précise.
Et du côté russe, j'imagine qu'il n'échappe pas non plus aux intérêts économiques.
L'économie russe repose sur l'exploitation du gaz et du pétrole essentiellement. Gaz qu'elle fournit massivement à l'Union européenne sous forme de GNL, le gaz naturel liquéfié. Les autorités russes ont également commencé à négocier des contrats avec la Chine face à une Europe inquiète d'être à ce point dépendante de la Russie sur le plan énergétique. La Chine, quant à elle, aurait tout à y gagner dans le cadre de son projet des nouvelles routes de la soie et de ses énormes besoins en énergie. Forcément, la Russie s'est intéressée à la région. Elle y a construit des infrastructures, agrandi sa flotte de brise-glace qui comporte aujourd'hui 40 bâtiments. Et elle s'est aussi mise à revendiquer de plus en plus de territoires en Arctique. En cherchant à s'accaparer cette région, elle souhaite bien sûr se tailler la part du lion, voire à manger le gâteau en entier. Et quand on cherche à protéger son garde-manger, c'est toujours pratique de pouvoir compter sur une armée.
Mais attends, parce que le Conseil de l'Arctique, sur le papier, comme tu l'as dit, c'est essentiellement sur les questions de préservation de l'environnement que ça doit marcher, non ?
Effectivement, et d'ailleurs il doit avoir fort à faire en ce moment avec la pollution au carbone noir qui résulte de l'industrie pétrochimique et de l'exploitation des hydrocarbures. Mais tout le problème est là, c'est que les négociations dans le cadre du Conseil sont complètement mises de côté pour des enjeux économiques et militaires. Côté russe, des manœuvres militaires se déroulent régulièrement. On a d'ailleurs vu récemment des images de 3 sous-marins nucléaires brisant la glace de la banquise simultanément. Les autorités ont d'ailleurs déployé un système de défense anti-aérienne et des bases sur l'Arctique. Comme au bon vieux temps de la guerre froide, Washington et les pays scandinaves ont réagi par l'intermédiaire de l'OTAN, l'organisation militaire qui rassemble la plupart des États occidentaux autour des États-Unis. Le Danemark a de son côté dépensé 200 millions d'euros pour renforcer la surveillance de l'Atlantique Nord et du Groenland. La nouvelle administration américaine a quant à elle pondu une feuille de route exposant la nécessité d'une présence navale dans la région face aux menaces russes et chinoises. La Norvège, enfin, accueillera 40 000 soldats de l'OTAN pour des exercices futurs. L'un des derniers communiqués de presse publiés par le Conseil réaffirmait son engagement à maintenir la paix et le développement durable comme étant les priorités absolues de la présidence russe. Je pense pas qu'on y parvienne à grands coups de barils de pétrole ou d'exercices militaires, mais allez-y, surprenez-moi.
Merci beaucoup Léo pour toutes ces explications. Il va être quant à nous déjà l'heure de nous quitter. Ce soir, vous retrouvez des rediffusions du Coureur de Funk, Ta Gueule Coubertin, ainsi que Scratch Fellaz et un nouvel épisode pour La Mine. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus.